Bien, puisque j'ai le micro en main, je vais rester là. Oui, la première remarque, j'ai quatre remarques à faire. Donc la première, c'est que l'armée d'Orient n'a pas été épargnée non plus. On peut se poser la question d'une chronologie. Juin, juillet 17, mutinerie dans l'armée d'Orient. Bien. Est-ce que l'armée d'Orient a, est-ce que les soldats de l'armée d'Orient ont été informés de ce qui se passait sur le front occidental? C'est la question qu'on peut se poser. Ou bien est-ce que c'est un mouvement spontané? Alors quand on regarde un peu les choses, on se rend compte, comme le rapporteur l'a dit, qu'en fait, eh bien, il y a c'est pas des événements qui se déroulent en Macédoine, les mutineries. Il y a tout au long de la chaîne qui mène des camps de transit du sud de la France jusqu'en Macédoine, eh bien, il y a des événements. Et vous savez ou vous ne savez pas que l'armée d'Orient, pour éviter le péril sous-marin, passait par des lignes de communication qui étaient en Italie. Il y a même eu des mutineries à Brindisi en juin 1917. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a tout le cycle, en fait, complet d'approvisionnement, de passage de l'Italie en Grèce jusqu'en Macédoine qui a été contaminé. Alors la question qu'on se pose, et on ne peut pas y répondre, est-ce qu'il y a eu une influence de ce qui s'est passé en France? Mais il y a une concomitance quand même, juin, juillet, mai, ça commence disons fin avril, hein, les mutineries en France, mai c'est un mois qui est difficile, juin, juillet ce sont des mois qui sont importants, donc c'est la grande question qu'on se pose, on n'a pas de réponse. Alors, il y a ensuite, donc, ça c'est une remarque d'ensemble, il y a la remarque que je ferai, il y a quatre points sur lesquels je voudrais insister, mais très rapidement. D'abord, il y a ce qu'on a appelé ce matin le rapport à la démocratie, il est évident qu'il y a une réclamation, hein, il y a des réclamations, les choses se déroulent comme une sorte de réclamation, des gens qui viennent et qui réclament le droit à la permission. Hein, en se fondant, c'est d'ailleurs intéressant, sur des textes officiels. Il y a des textes officiels. Sur le front occidental, les soldats ont une permission de 15 jours, je crois, tous les 4 mois. Pourquoi est-ce que nous, en Orient, nous n'avons rien? Deuxième élément qui rentre en ligne de compte pour exacerber, en fait, cette passion, c'est qu'en fait, les soldats d'Orient sont à 1500, 2000 km de la France. Il y a donc, à côté de ce sentiment, cette volonté de permission, un sentiment d'expatriation et le sentiment qu'en fait, ben, on les laisse sur place, on ne veut pas les rapatrier au bout du temps légal qui est 18 mois, de manière à leur permettre d'avoir en même temps des permissions. Donc il y a un double, si vous voulez, il y a une double réclamation, c'est des permissions, du rapatriement en métropole. Autre élément qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est la pression sociale. Il y a, dans les archives du défunt service historique de l'armée de terre, il y a quelques cartons extraordinaires dans lesquels il y a des centaines de lettres de familles, de civils qui écrivent au ministère de la guerre en disant « Mais pourquoi est-ce que nos hommes, nos frères, etc., nos cousins, restent si longtemps en Orient? Pourquoi est-ce qu'on ne les rapatrie pas ?» Hein. Donc il y a une sorte de pression sociale qui s'exerce dans l'esprit, me semble-t-il, des soldats d'Orient qui est exacerbée justement par les réclamations des familles. Ça, c'est un point important. Deuxième point donc de cette intervention sur lequel je voulais insister, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur, donc ça concerne donc le problème de l'implication. Alors je ne sais pas, parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs sur les mutineries de 17 en France, je ne me rappelle pas s'il y a eu des sous-officiers qui ont été impliqués dans des mouvements de mutinerie. Là, on a sciemment, on a quelques sous-officiers, donc en fait on n'a pas les quelques sous-officiers qui sont déférés en conseil de guerre, il y a un adjudant je crois et deux ou trois sergents, donc ça montre qu'en fait il y a au sein même de ce qui constitue la représentativité de l'institution militaire, hein, les galons, donc des gens qui refusent de remonter au front. Entre parenthèses, c'est comme en France, hein, c'est-à-dire on ne se mutine pas sur le front, on se mutine en arrière du front, il n'y a aucune mutinerie qui se déroule sur le front. Donc c'est intéressant. Deuxième élément de cette deuxième question, c'est qu'en fait on sait qu'il y a eu de la part des officiers un encouragement. Il y a eu un encouragement. Le général Sarraï se plaint énormément de l'attitude d'un certain nombre d'officiers qui, semble-t-il, ont fermé les yeux sur les mouvements qui étaient en train de se fomenter. Tout ça, c'est dû, en fait, à l'exaspération de rester sur place. Hein, il n'y a pas d'agitateur anarchiste en Serbie, hein, c'est la montagne, c'est le Djebel. Il n'y a pas d'agitateur anarcho-syndicaliste. C'est l'exaspération, en fait, qui rentre en ligne de compte. Il y a une sorte de communauté de vue qui est faite de cette exaspération. Troisième élément, sans aller, sans empiéter sur le temps des autres, c'est en fait la répression. La répression est intéressante, est intelligente. On ne tue pas des hommes, on tue des symboles. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de mutins condamnés à mort dans les mutineries d'armée d'Orient, qui ont pourtant été quand même assez importantes. Il y a tout un bataillon qui refuse de monter au front, etc. Eh bien, on ne tue pas des hommes, on essaye de tuer un symbole, c'est celui du 242e régiment d'infanterie qui se mutine donc en juillet 1917, qui refuse de monter au front, qu'on essaye de disperser et qui résiste pendant une dizaine de jours. Ce qui est quand même assez long par rapport à un mouvement de la sorte. Et en fait, que fait le haut commandement? Il dissout le 242e RI, donc on dissout un symbole. On dissout un symbole, on ne tue pas des gens, on tue un symbole. Mais c'est un peu comme, je ne me rappelle plus comment s'appelait le régiment qui a mis la crosse en l'air au moment des mouvements de viticulteurs. Voilà, c'est un peu le 10e de ligne. C'est extraordinaire parce que le 242e RI devient un symbole, en fait, de ses refus d'obéissance. Et j'avais retrouvé dans les archives de la justice militaire, je vous voyais pas, mais j'en ai vraiment pour 10 secondes encore. J'avais retrouvé dans les archives de la justice militaire, en fait, d'autres cas de refus d'obéissance collective qui s'étaient déroulés à la fin de l'année 17 et en septembre 1918, vous savez, au moment où l'armée d'Orient sort du plus grand camp de prisonniers du monde, qui était Salonique, n'est-ce pas, et qui perce vers le nord. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement de désobéissance, on fait référence donc au 242e RI qui a montré la voie. Donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas tué de gens, on a essayé de tuer un symbole, mais on n'est pas parvenu à le tuer. Vous me donnez 10 secondes de plus ? Bon, bah tant pis, tant pis.